Je voulais ce matin, peut-être avant d'entrer vraiment dans cette joie de Noël, juste m'arrêter un tout petit peu encore dans ce temps de l'Avent et parler d'un personnage, parler de Zacharie, le papa de Jean-Baptiste. Parce que Zacharie, c'est un maillon très important dans l'accomplissement, dans la réalisation de l'œuvre du salut, dans cette période de l'attente du Sauveur. Zacharie est un personnage important et j'aimerais peut-être ce matin, en reprenant un peu le récit qui est raconté sur lui, j'aimerais ce matin peut-être méditer encore un tout petit peu avant d'entrer véritablement dans une période où nous allons vraiment vivre Noël. Alors ce matin, je voudrais vraiment que nous puissions encore avoir un temps de réflexion avec l'Avent, un temps de réflexion aussi pour nous préparer, pour vivre, pour attendre dans l'espoir. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux de t'appartenir, heureux de savoir que même si les circonstances de nos vies sont parfois compliquées, parfois pas évidentes, parfois simples, mais nous savons une chose, c'est que tu as le contrôle de toutes choses et que nos vies sont véritablement entre tes mains. Tu fais tout ce que toi tu promets, Seigneur, et tu accomplis ta parole de sorte que nous pouvons reposer sous la certitude de notre salut. Aide-nous encore à méditer encore sur ta parole et ce que ta parole nous dit encore ce matin à travers ce temps que nous voulons passer, à travers aussi le personnage de Zacharie. Seigneur, bénis ce temps de partage ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons regarder dans Luc, au chapitre 1. Je propose une lecture du verset 5 au verset 25. Luc, chapitre 1, 5 à 25. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, et elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et il se tint debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et le rebelle à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, ne put leur parler. Il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Jusque-là la lecture. Nous sommes en Palestine à la fin du règne du roi Hérode le Grand, roi de Judée. Vous savez que Rome avait imposé des rois à diviser la Palestine en plusieurs petites provinces dont il a mis des rois qui étaient bien sûr des personnes qui n'étaient pas israélites proprement dites. Et donc il les a installés là, c'était, vous savez, le principe de diviser pour mieux régner. Donc il les a installés là. Comme on vient de le lire, le récit ici concerne Zacharie, qui est donc le mari d'Élisabeth et le père de Jean-Baptiste. Nous n'allons pas parler de Jean-Baptiste ce matin, bien sûr, nous voulons parler plutôt de Zacharie. Je propose trois étapes dans ma méditation de ce matin. D'abord, première chose, j'aimerais voir quelles sont les qualités spirituelles qui sont là dans le personnage de Zacharie. Deuxième chose, j'aimerais aussi voir un point faible dans les qualités, dans le personnage de Zacharie. Et enfin, peut-être justement se reporter à nous ce matin, quelles répercussions ce texte peut avoir aussi sur nous ce matin. Okay? Premier point, les qualités de Zacharie. Zacharie a trois grandes qualités. Vous avez vu? Tu peux remettre le texte? Verset 2, première qualité. Ah, qu'est-ce que je raconte, moi, verset 2? Je ne sais plus comment je suis au verset 2. Verset 5, pardon. Alors, première qualité, Zacharie est sacrificateur. Le mot sacrificateur pourrait être valablement remplacé aujourd'hui par le mot prêtre. Et le mot prêtre pourrait être très très proche avec la fonction du prêtre catholique. Ça pourrait être très proche, il y a des différences, mais c'est un peu plus proche dans ce sens-là. Donc Zacharie est prêtre, c'est-à-dire un religieux. Il est prêtre et vous avez vu qu'il est écrit qu'il est de la catégorie, de la classe d'Abia, au verset 5. Il est donc... Vous savez que les sacrificateurs sont tous issus de la tribu de Lévi, ce sont des Lévites. Et donc la tribu de Lévi, c'est la tribu que Dieu a mis à part pour son service dans le temple, pour le culte de Dieu en général. Vous savez aussi que les sacrificateurs, donc ils assurent tout le travail au temple, ils présentent les sacrifices, ils donnent des enseignements, les enseignements de la loi, ils répondent aux questions et aux problèmes en rapport avec le spirituel, avec Dieu, etc. C'est vraiment véritablement des personnes qui sont là pour le Seigneur. Les sacrificateurs étaient au nombre, étaient très très nombreux et ils étaient regroupés, repartis en 24 classes. Et la classe d'Abia, à laquelle appartient Zacharie, est la huitième classe, la classe 8. Et justement, au moment où ce récit est, dans le contexte de ce récit, c'est cette classe-là qui est retenue pour aller offrir le parfum dans l'autel qui se trouve dans le lieu saint. Vous savez que le temple, depuis le tabernacle et le temple aussi, est divisé en trois grandes parties. Vous savez tout ça ou bien je vous raconte des histoires impossibles ici? Parce que ça même mes élèves savent, hein? Donc, enfin, je dis pas que vous êtes moins doués que mes élèves, je vais pas dire ça, mais... Surtout qu'ils connaissent, mais ils sont comme un peu Marie-Luce a dit là, quand je leur demande quand Jésus est né, j'en entends aussi des réponses incroyables aussi. Hein. J'entends comme là dans le micro-trottoir. Donc, dans le temple, il y avait trois parties. Il y a les parvis, et puis il y a le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis, c'est l'endroit où tout le monde se retrouve pour présenter ses requêtes, offrir son offrande, présenter un sacrifice, etc. par rapport à tout ce qu'on vient apporter comme requête. C'est le lieu aussi où les sacrificateurs aussi sont assis pour enseigner, à donner donner des enseignements au niveau de la loi, etc. Puis il y a la deuxième partie qui est le lieu saint. C'est un endroit où les profanes, les gens de tous les jours n'entrent pas. Il n'y a que les sacrificateurs qui rentrent. Et là se trouvent tous les appareils avec lesquels, tous les instruments avec lesquels on fait les sacrifices, avec lesquels on fait le travail. Et dans le coin, juste devant le voile, puisque derrière le voile, c'est le lieu très saint, là, il n'y a que le souverain sacrificateur qui y entre une fois par an. Juste devant le voile, qui recouvre donc la dernière partie, il y a dans un petit coin, un autel, qu'on appelle l'autel des parfums. C'est un autel sur lequel Dieu a ordonné qu'on verse toujours du parfum et qu'il y ait toujours une belle odeur, une bonne odeur dans ce lieu-là. Et il y a des différents services, donc les différentes classes de sacrificateurs se remplacent. Et à l'intérieur de chaque classe de sacrificateurs, on tire au sort qui va dans cette classe-là aller offrir le parfum sur cet autel-là qu'on appelle l'autel des parfums. Et donc, ici, dans ce texte, c'est Zacharie qui va être désigné pour faire cette tâche. Et il va l'accomplir. Et il se passera quelque chose. Mais ça, on reviendra sur ça. Donc, première qualité, Zacharie est un homme religieux. Un religieux. Quelqu'un qui est constamment au service de Dieu. Qui est là, consacré dans sa vie de tous les jours à Dieu. Il vit pour Dieu. Il travaille avec Dieu 24 heures sur 24. Il est mis à part pour le Seigneur. C'est un homme religieux. Quelle qualité, n'est-ce pas? Quelle qualité morale. Nous ne pouvons plus nous permettre tous d'être comme ça aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pas évident, parce que nous avons aussi des tas d'activités, une vie. Mais quelle doit être la connaissance? Quelle doit être l'expérience d'un homme pareil? Quelle doit être la maîtrise de tout ce qui concerne Dieu avec un homme pareil? Deuxième qualité. Deuxième qualité, nous le voyons verset 6. Zacharie et sa femme étaient justes devant Dieu. C'est un couple, c'est un homme et une femme justes. Et on précise en quoi consiste cette justice-là. Ce sont des gens qui étaient irréprochables dans leur façon d'observer la loi. On pourrait dire, comme dirait Jean-Jacques Goldman, c'est des gens bien comme il faut. Des gens presque parfaits. Des gens vraiment comme Dieu serait content d'avoir. Des gens bien. Des gens très très bien. Et si on doit se référer aux chrétiens, nonobstant le fait de la loi, on pourrait dire que c'est des très bons chrétiens. C'est des chrétiens exemplaires. Des chrétiens presque parfaits. Des modèles, en quelque sorte. Des gens qui craignent Dieu et qui observent sa parole. Qui ne la lisent pas seulement, mais qui la vivent aussi. Merveilleux. Ça, c'est la deuxième qualité de Zacharie. Troisième qualité, verset 13. Zacharie est un homme de prière. Puisque l'ange va lui apparaître et lui dire, Zacharie, ne crains rien, ta prière a été exaucée. C'est un homme de prière. C'est un homme qui passe le temps aussi à prier, à demander l'aide de Dieu. C'est un homme qui passe le temps aussi à consacrer du temps dans cette intimité avec Dieu. Trois qualités, mes amis. Trois qualités d'un homme qui montre que c'est le type bien, le good man, le bon type, le type qu'il faut pour l'œuvre de Dieu. Un type à nous donner tous, à nous faire tous pâlir de honte ou de jalousie ou de, je sais pas comment on peut dire, parce qu'on se dit, waouh, quand moi je me regarde moi-même, je dis, oulala, il y a ça qui me manque encore, et puis il y a ça, et puis la vie de prière, être juste, et en plus, je suis même pas religieux, enfin, je suis pas consacré 24 heures sur 24 avec Dieu, etc. Trois qualités qui font de Zacharie vraiment un homme extraordinaire. Mais ces trois qualités, donc, bien que ça fait de Zacharie un homme idéal, un homme comme il faut, malheureusement, on se trouve bloqué ou mis à mal par un défaut, par un problème, par un point. Je passe à mon deuxième point. Zacharie avait un point faible. Verset 7. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et plus encore, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Un point faible, un point difficile, un point compliqué. Avoir l'âge avancé voudrait dire qu'il n'y a plus d'espoir d'avoir des enfants. Zacharie donc a ce gros souci dans le cœur. Et peut-être c'était ça l'objet de sa prière au moment où il offre le parfum. Peut-être c'était ça l'objet de sa prière pour laquelle l'ange lui a dit « Ne crains pas, ta prière a été exaucée ». Peut-être c'était ça. Le texte ne nous permet pas de le dire, bien sûr. Le texte ne nous oriente pas dans un sens ou dans un autre. Donc on peut seulement se permettre de supposer cela. Peut-être c'était cela, sa prière, lorsque l'ange lui est apparu. On ne sait pas le dire, mais on peut le supposer. Zacharie a dû attendre des années, de nombreuses années, attendre que Dieu le bénisse en lui donnant un enfant. Vous savez, en Israël, il est quand même sacrificateur. Il a quand même toutes ces qualités dont je viens de parler. Avoir un enfant, c'est le juste retour de Dieu qui approuve, qui bénit, qui montre sa joie, qui montre son plaisir d'avoir cet homme comme son serviteur. Voyez, vous vous souvenez de ce que dit Élisabeth à la fin. Il dit, Dieu m'a ainsi béni pour me enlever mon opprobre. C'est aussi un sujet de honte. T'es sacrificateur. Et t'as pas d'enfant. Il y a sûrement un problème dans ta vie, Zacharie. T'as un problème peut-être. Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ta vie. Et Zacharie a dû attendre beaucoup. Et cette attente a peut-être été déçue. Il a attendu, pas d'enfant. Attendu, prié, pas d'enfant. Vécu une vie correcte devant Dieu, juste devant Dieu, pas d'enfant. Un service consacré à Dieu, sérieux, pas d'enfant. Pourtant, toutes ces qualités ne devaient-elles pas amener Dieu quand même à faire quelque chose? Et non seulement ça, il y a peut-être un détail que je n'ai pas donné. Vous savez que non seulement Zacharie est un homme presque parfait, mais sa femme aussi, est aussi remarquable. Non seulement elle est juste comme son mari, correct, mais vous avez remarqué, on dit que sa femme était fille d'entre Aaron. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle était elle aussi fille de sacrificateur de la classe d'Aaron. Or, Aaron, c'est qui? C'est le souverain sacrificateur. Il n'a pas épousé n'importe qui. Il a épousé la meilleure, l'excellence. La femme, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un de très, très, très bien. Et pourtant, Dieu n'a pas exaucé sa prière. J'imagine les larmes de cet homme. J'imagine les larmes de ce couple. J'imagine les attentes déçues. C'est peut-être ça qui explique l'attitude de Zacharie. Peut-être. N'est-ce pas? Comment est-ce que Zacharie ne va-t-il pas reconnaître l'ange dans un lieu aussi particulier, dans un endroit aussi particulier où nécessairement, forcément, Dieu peut se manifester. Dieu doit se manifester. C'est son temple. Il ne reconnaît pas. Comment a-t-il pu poser des questions comme, mais, attends, comment est-ce que moi je vais reconnaître ton signe là? Et regarde, ma femme et moi, nous sommes vieux. Comment est-ce qu'on va avoir d'enfants? Comment peut-il poser des questions, une telle question devant l'ange de l'Éternel, sachant que ça vient de Dieu? Voyez? Et toujours est-il que sa réponse ne plaît pas à Dieu. Sa réponse ne plaît pas à Dieu. Et il est sanctionné. Dieu ordonne qu'il soit muet jusqu'à l'accomplissement de la parole de Dieu. Alors la question, est-ce que c'est le seul qui a fait ça dans la Bible? Non! Souvenez-vous de Sarah. Hey, Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait? Lorsque on a annoncé qu'elle allait être maman, qu'est-ce que Sarah a fait? Elle a ricané. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? Aïe, aïe, aïe. Hein? Non seulement elle a dit qu'elle n'était pas capable d'avoir d'enfant, mais j'aime bien cette autre façon de parler, dit, mais mon Seigneur Abraham, il ne peut plus avoir d'enfant, lui aussi. C'est pas que ma faute à moi, lui aussi, il peut pas. Donc, allez, laisse tomber. Mais d'où vient que, dans le cas d'Abraham, Dieu va exaucer la prière. Et pourquoi, ici, Dieu n'exauce pas la prière? Dieu ne fait pas passer ça. Pourquoi? La raison, elle est dans le texte elle-même, n'est-ce pas? La raison est dans le texte elle-même. La raison, c'est que Zacharie a douté. Il a manqué de foi. Il s'est montré incrédule. Il a manifesté le doute. Comment un homme si spirituel peut-il avoir perdu la foi à ce point-là? Pourtant, tout ce que l'ange lui a annoncé, tout s'est accompli. Élisabeth est devenue enceinte. Et plus tard, dans ce texte ici, elle va même enfanter. Elle va mettre au monde un enfant. Plus tard, Zacharie lui-même va retrouver l'usage de la parole. Et va même prophétiser sur Jean. Tout ce que Dieu avait promis s'est accompli. Dieu a réalisé tout. Alors, qu'est-ce qui a fait perdre? Qu'est-ce qui a fait perdre la foi à Zacharie? Pourquoi Zacharie a-t-il douté? Je pense que vous avez compris un peu la réponse. C'est parce que l'attente était déçue. Parce que l'attente était déçue. Parce que le désespoir s'est mis dans l'attente. Il a beaucoup attendu. Il n'a rien vu. Imaginez-vous, vous êtes en train d'attendre quelque chose qui ne vient pas et le temps passe. Les faits vous montrent que, de toute façon, cela n'arrivera plus. Peut-être probablement plus. Alors tout doucement, le doute s'installe. Et avec le doute, la frustration, la colère, la déception. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Cela arrive même aux plus spirituels d'entre nous, hein? Cela arrive à nous tous. Ça peut arriver aussi à moi. Dernier point. On va terminer avec ça, on va atterrir. Quelle est la répercussion de ce texte aujourd'hui avec nous aujourd'hui? De quoi ça peut nous parler? À quoi ça peut nous inviter? À quoi ça peut nous encourager ce matin? J'ai pas fait ce texte pour vous présenter une situation de Zacharie, simplement en disant voilà ce qui se passe. Mais je voudrais que nous puissions aussi reprendre quelque chose aussi pour nous ce matin. Le récit de Zacharie nous ouvre les yeux sur le danger de perdre la foi à cause de l'attente déçue. Et c'est possible que nous soyons déçus. C'est possible que ce que nous attendons n'arrive pas. Ou n'arrive pas dans le temps que nous souhaitons, dans les délais que nous nous sommes donnés. C'est possible, c'est tout à fait possible que nous soyons non seulement déçus, mais que nous passions par toutes ces étapes-là. Le doute, la frustration, la colère, la déception, et peut-être même encore après, fermeture de cœur. Je veux plus de ça. C'est terminé. Vous parlez pas de votre Dieu là. Parlez pas que Dieu fait quelque chose. Terminé. J'en veux plus. Je veux plus. C'est possible. Mais il y a un danger que nous pouvons nous maîtriser, que nous pouvons nous, sur lequel nous pouvons nous faire face. Même si les faits nous montrent le contraire, comme dans le cas de Zacharie, il est devenu vieux. Il ne peut plus avoir d'enfant. Physiquement, quand on est atteint à un certain âge, on ne peut plus avoir d'enfant. C'est naturel. C'est comme ça qu'est le corps humain. Même si ils ont attendu tellement longtemps, même si c'est le fait, n'oublions pas qui est Dieu. Il est tout-puissant. Il est grand. Il fait les choses comme il veut. Et dans le temps qu'il veut, il peut refleurir les déserts, il peut assécher les mers, il peut transformer des vies, il peut changer les temps et les circonstances. C'est Dieu. Dans l'attente, une seule chose est stable. C'est Dieu. Sa promesse, son engagement, sa puissance. C'est ce que nous devons avoir dans notre cœur. C'est ce que nous devons avoir à cœur dans l'attente. Ne pas nous laisser prendre par le virus de la déception, mais se dire, il y a encore Dieu, mon Rédempteur est encore vivant, il se lèvera. Et de plus, Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît de quoi nous sommes faits. Il connaît nos attentes. Plus encore, il sait ce qui est bien pour nous. Parce que nous ne savons pas toujours ce qui est bien pour nous. Nous croyons qu'une chose est bien pour nous, mais alors que... Combien n'y a-t-il pas de jeunes gens qui se sont mariés avec des jeunes filles avec lesquelles c'était totalement incompatible? Dans ma propre famille, j'ai des cas comme ça. Où l'on dit au jeune homme, tu vois cette jeune fille-là, ça va parler avec... Ça ne va pas aller, laisse tomber. Oh, mais non, j'ai le droit. Et puis, boum, mariage, divorce. Mais Dieu, il sait exactement ce qui est bien pour nous. Il sait toujours ce qui est bien pour nous. C'est le Dieu de miracles. Je ne fais pas de reproches ce matin à Zacharie. Parce que, loin de moi de lui faire des reproches pour quelque chose que moi dans lequel je peux aussi tomber. Mais j'espère de tout mon cœur, et j'espère aussi pour vous, que lorsque votre attente sera déçue, lorsque vous allez voir que c'est trop long, je ne vois rien depuis que j'attends, depuis que j'espère, il n'y a rien. Fixez vos yeux sur le Dieu, le seul, le Dieu de miracles. C'est la répercussion que je voudrais ce matin avec ce texte pour nous. Savoir qu'il est vrai que nous pouvons être déçus, mais Dieu ne va pas nous décevoir. Il sera toujours fidèle pour nous emmener à bon port. Alors ce matin, nous attendons, à travers l'Avent, nous attendons le Sauveur. Nous allons fêter Noël dimanche prochain. Nous attendons au-delà de ce Sauveur que nous commémorons simplement, nous attendons le salut définitif. Nous attendons le retour glorieux de Jésus. Nous attendons que nous soyons un jour définitivement au ciel. Nous avons une certitude. Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu tout-puissant. Gardons donc la foi durant l'attente. Gardons donc la foi, parce que Dieu, il est fidèle. Gardons la foi envers tout et contre tout, dans nos épreuves, dans nos combats. Vous voyez, ce n'était même pas quelque chose de spirituel qui a bloqué la marche de Zacharie. C'est quelque chose de personnel, quelque chose qui concerne sa propre vie. Ce n'est pas quelque chose en rapport avec le culte. C'est quelque chose en rapport avec lui-même, avec... Et c'est comme ça, nous tous. C'est comme ça, nous tous. Les obstacles, ce n'est pas dans notre façon de travailler pour Dieu. Les obstacles, c'est dans notre sphère personnelle. Gardons la foi. Même si nous attendons la réponse de Dieu face à la maladie, face aux épreuves, face à quelque chose qu'on a demandé à Dieu, je ne sais pas moi, si c'est pour le mariage, si c'est pour la réussite dans les études, si c'est pour le je ne sais pas moi, des questions plus personnelles, peut-être des combats plus personnels, etc. Gardons confiance. Gardons confiance. Sachant qu'il est tout-puissant, celui qui prend soin de nous. Il ne nous juge pas. Regardez, il va frapper de mutisme Zacharie, mais pour un temps. Parce qu'il a douté. Mais après, il lui redonne encore de pouvoir parler comme il faut. J'aimerais terminer avec ce petit texte qui parle de comment Dieu fait les choses et peut-être juste s'arrêter avec ce texte-là. Habacuc chapitre 2, le verset 3. J'aime beaucoup ce texte. C'est un texte qui me réconforte. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ça, c'est Dieu. Et il nous dit ce qu'il faut faire. Si ça tarde, attendez. Attendez avec espoir. Attendez avec foi, avec confiance. Dieu accomplira ce qu'il faut. Vous imaginez Zacharie qui va avoir enfin ce bébé qu'il attend tant après avoir eu des problèmes avec Dieu. Peut-être que dans sa tête, il se dit, mais punaise quoi, si j'étais un tout petit peu patient, j'aurais eu cet enfant sans que Dieu me reproche quelque chose. Que le Seigneur nous aide tous dans ce beau temps d'attente, à savoir comment attendre. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que c'est toi notre Dieu, l'espoir des nations, lumière des nations, le Dieu qui vient éclairer nos vies. Par ta lumière, nous voyons la lumière, le Dieu qui vient dans nos intimités, dans nos silences, dans nos vies au plus profond de nous, qui vient nous restaurer, nous bénir, nous réconforter, répondre à nos cris, à nos problèmes et nous faire du bien, Seigneur. Merci pour ta parole. Aide-nous à continuer à la méditer et à la vivre, Seigneur, pour ta gloire. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.